par rapport à ses objectifs, c'est absolument catastrophique et c'est une situation qui doit être résolue extrêmement rapidement.
Bonjour à tous, ravi de retrouver pour le troisième épisode d'Analyse de patrimoine avec Valentin Chaponnet. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un patrimoine qui dépasse le million d'euros et une personne qui, d'après ce qu'on en a compris justement en observant ce patrimoine, serait du côté de la frontière suisse avec des comptes notamment en France mais également en Suisse. Ravi de te retrouver Valentin.
Merci CM et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle analyse.
Donc on se retrouve avec un patrimoine brut à 1,148 millions d'euros, donc quasiment 1 150 000, une plus-value qui pour l'instant a l'air d'être de 22% et de 207 000 euros. Et on part immédiatement sur la première ligne donc qui est l'immobilier avec une maison qui aujourd'hui vaut 447 000 euros et une plus-value de quasi 145 000 euros et un appartement qui représente 15%. Donc dans le patrimoine de 169 000 euros, une plus-value de 29 000 euros pour un total dans le patrimoine global de 54%. Également à noter qu'ils sont deux détenteurs, donc certainement peut-être un couple marié ou enfin tu me diras Valentin ce que tu en penses, avec 46 et 54% au niveau de la répartition de cet immobilier.
Oui, tout à fait. Je pense qu'ils sont en indivision et qu'effectivement, il y a une personne qui a une part plus importante d'immobilier que l'autre, puisque généralement, il y a des disparités sur les apports personnels et donc les couples peuvent décider de refléter ça dans les parts de détention et dans le pourcentage de détention. Et on est bien sur une indivision et on est sur des biens immobiliers qui sont encore soumis à des emprunts. Donc, on est bien sur du patrimoine brut puisqu'on a à peu près 300 000 euros d'emprunts qui restent à rembourser encore. Voilà, 263 000 euros.
Oui, on a deux emprunts donc préamortissables standard, un premier de 149 000 euros, quasi 150 d'ailleurs, et 113 000 euros. Donc aujourd'hui, une capacité d'emprunt au vu du patrimoine qui n'est pas déraisonnable hein, en tout cas, puisqu'on a un emprunt de 263 000 euros. Et pour donc vous donner un petit peu de profondeur par rapport à ce profil, donc une personne qui a un horizon de temps bien entendu long terme, plus de 10 ans, et qui se pose pas mal de questions de comment faire grossir ce patrimoine au global au fil des opportunités, comme il le dit lui-même. Il est rentré tard dans la crypto et ça l'a fait rentrer par corollaire et par effet de bord dans la finance traditionnelle et ça lui plaît et il avance doucement. Donc, il nous demande tout simplement un avis éclairé sur un patrimoine qui, comme on le disait en off à l'instant, Valentin, avant de lancer l'enregistrement de cette émission, nous paraît déjà un peu plus construit que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Un patrimoine de plus d'un million d'euros qui plus est, c'est déjà des plus conséquents, c'est pas tout le monde qui y arrive. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir un peu ce qu'on pourrait éventuellement améliorer de ce côté-là. Et du côté immobilier, donc déjà, est-ce que tu penses que c'est raisonné et raisonnable la façon dont notre abonné a tout simplement fait les choses? En l'état, ça semble pas complètement fou d'avoir une maison et un appartement. Et d'autant plus qu'on peut observer donc qu'il y a déjà une belle plus-value et un prêt, comme on l'a dit, qui n'est pas exorbitant par rapport au patrimoine global.
Oui, tout à fait. Alors la maison, effectivement, bon, bah, déjà, on ne peut pas lui donner tort parce qu'il a de très belles plus-values. Je pense que l'analyse du jour, en fait, réside à la frontière suisse, puisqu'on va le voir, il a des comptes en France-Suisse, et donc il est frontalier et qu'il a acheté dans la région Haute-Savoie, qui est une région qui a pris énormément en valeur ces dernières années, que je connais très bien puisque j'ai y vécu plus de 4 ans. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas vraiment lui donner tort, d'autant plus que sur la maison, il a un crédit très intéressant avec un taux d'intérêt aux alentours des 1% de mémoire. L'appartement, il faut préciser que ce n'est pas un investissement locatif, mais c'est bien une résidence secondaire. Donc, pourquoi pas pour un achat plaisir, peut-être un appartement en montagne pour aller faire du ski, c'est tout à fait possible, sur lequel il a une belle plus-value aussi, qui est soumis par contre à un taux d'intérêt beaucoup plus élevé puisqu'on est aux alentours de 3,3%, pareil de mémoire. Non, ça me choque pas plus que ça. Évidemment, l'immobilier prend beaucoup de place dans le patrimoine parce qu'on est sur du brut avec un effet de levier d'emprunt et avec des belles plus-values. Donc là-dessus, pas grand-chose à redire. Attention néanmoins à la taxe foncière qui a augmenté encore cette année de plus 5%, ça n'arrête pas. Attention au fait que vous êtes une proie facile pour l'État aussi, puisque c'est chez les propriétaires qui vont aller chercher de l'argent en premier, puisque par définition, vous êtes immobile. Et dans la situation actuelle de la France, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Et enfin, attention, alors il en est encore loin, mais je vous rappelle que le seuil de déclenchement de l'impôt sur la fortune immobilière se déclenche à 1 300 000 euros de patrimoine immobilier. Donc pour l'instant, il est à 616 000 euros, ce qui lui laisse à peu près 600 000 euros de marge de manœuvre. Mais attention, s'il vient financer d'autres biens immobiliers, il peut très rapidement se retrouver à payer l'IFI.
Tu peux nous rappeler ce que ça représenterait du coup, l'IFI, s'il te plaît ?
Alors l'IFI, ça se déclenche à partir de 1 300 000 euros et tu vas venir le payer en fait tous les ans sur la valeur de ton patrimoine immobilier à partir de 1 300 000 euros. Et ensuite, c'est un barème progressif comme pour l'impôt sur le revenu. Donc plus tu as une valeur élevée, plus tu vas payer un pourcentage élevé d'impôt.
Ok, très clair. Donc 54% en immobilier et on passe à la seconde ligne avec plusieurs comptes courants. Donc notre analysé du jour a un patrimoine composé à 13% donc dans plusieurs comptes bancaires avec des comptes en euros et un compte en francs CHF. Donc un premier 62, quasi 63 000 euros. On a 47 000 euros donc en francs CHF, 44 000 CHF sur un second compte, 37 000, 2 000 et enfin 87. Donc les deux derniers, on ne va pas forcément les traiter, mais je suppose que tu te poses la question, comme moi, de pourquoi garder autant de cash et de liquidités justement sur des comptes courants.
Ouais, bah là, on est sur l'exemple typique d'une personne qui fait une énorme erreur en laissant son cash dormir sur des comptes courants qui rapportent absolument zéro. Et là, on est sur une volumétrie de cash de 150 000 euros qui dorment. Alors, à moins qu'il ait besoin de cet argent pour financer un achat immobilier ou tout autre achat dans les semaines à venir, il n'y a aucune raison de laisser autant de cash sur ses comptes. D'autant plus qu'il nous a précisé dans son formulaire que lui, son objectif, c'était d'investir à long terme et de dynamiser son patrimoine. Là, en l'occurrence, j'ai 150 000 euros sur les comptes bancaires et on va le voir ensuite, on a plus de 130 000 euros des livrets. Donc, on a quasiment 300 000 euros de liquidités qui ne font absolument rien. Donc ça, aujourd'hui, par rapport à ses objectifs, c'est absolument catastrophique et c'est une situation qui doit être résolue extrêmement rapidement.
On passe au livret et on traitera du fond du sujet donc par la suite avec là de nouveau deux comptes d'épargne en francs CHF, donc à hauteur de 70 et 25 000 euros. Un livret A à 25 000 euros, d'ailleurs il doit être plafonné et avec le rendement ça finit par dépasser justement le seuil maximal. Et le livret donc le LDDS, livret de développement durable et solidaire, 13 000 euros. Pareil, de souvenir, il doit être maxé. Je crois que c'est dans ces eaux-là, autour de 13K. Donc, on a deux livrets qui, quelque part, pourraient servir d'épargne de précaution et qui est disponible immédiatement. Et je te laisse donc dire ce que tu en penses en termes de conseiller en investissement par rapport aux deux autres livrets qui, comme tu le dis, si on cumule au compte bancaire, au total, on s'approche des 300 000 euros.
Ouais, bah 300 000 euros de liquidité. Alors encore une fois, sauf s'il a un projet d'achat immobilier, un gros projet d'achat immobilier, parce qu'avec 300 000 euros, on peut faire beaucoup de choses. Il n'y a aucune raison de laisser autant de liquidités sur ses comptes. Donc moi, très clairement, là aujourd'hui, ce qu'il devrait faire, c'est garder une partie de son épargne de précaution sur des comptes français, l'autre partie sur des comptes suisses. C'est ce qu'il a très bien fait ici, mais en quantité beaucoup trop importante. Et vraiment réinvestir le reste, parce qu'encore une fois, je le rappelle, son objectif, c'est de maximiser son patrimoine à horizon 10 ans, et ce n'est pas en laissant de l'argent pourrir sur les comptes bancaires que ça va réussir. Je dirais, ce qu'il sauve un petit peu malgré tout, c'est qu'il a du franc suisse. Et le franc suisse, historiquement, par rapport à l'euro, s'apprécie. Donc, il va réussir à couvrir l'inflation française grâce à ça, parce que le franc suisse, historiquement, s'apprécie d'à peu près 2-2,5% par an par rapport à l'euro. Donc, il arrive à conserver son pouvoir d'achat comme ça. Mais néanmoins, on est sur un placement qui est beaucoup trop défensif par rapport à ses objectifs, encore une fois, qui sont de maximiser le patrimoine à horizon 10 ans. Donc là, il y a un très gros travail de répartition de la liquidité à faire. Et vraiment, il faut vider les comptes bancaires pour faire travailler l'argent sur des investissements à long terme et laisser sur les comptes bancaires uniquement l'épargne de précaution et éventuellement le cash dont on a besoin pour des projets. et il a la chance d'être en Suisse, donc il peut très bien faire un 50-50 entre de l'euro et du CHF.
Donc une répartition qui est favorable, mais des fonds qui sont trop importants au vu justement des projets qui sont d'investir cet argent. Et quand on passe d'ailleurs sur actions et fonds, c'est là où on se dit que finalement le vase communicant, il est très certainement là. On a à peine 11% qui est réellement investi sur les marchés avec 128 000 euros. Alors bon, après on a du fonds euro, mais pareil, c'est pas ça qui va venir chercher des performances extraordinaires. On a donc un premier compte avec 105 000 euros avec une très belle plus-value, hein, là aussi, plus 23%. Un plan épargne en action, 16 000 euros en plus-value de 7%, ça doit être beaucoup plus récent. Et un compte-titre du côté de Trade Republic avec 7 000 euros, avec là aussi une plus-value de 5%. Donc, je te laisse comme d'habitude l'avis du conseiller en gestion, mais très certainement que voilà, les deux premières lignes pourraient petit à petit ruisseler sur cette ligne action et fonds.
Ouais, donc effectivement, là, ce qu'on voit, et c'est tout à fait criant, c'est encore une fois, c'est ce que j'ai dit, en fait, son patrimoine n'est absolument pas corrélé et en adéquation avec ses objectifs et ses aspirations qui, encore une fois, sont de dynamiser le patrimoine à horizon 10 ans. Là, on a une poche actions et fonds qui ne représente que 11% du patrimoine, alors qu'on devrait être beaucoup plus élevé que ça. Donc aujourd'hui, on a trois enveloppes. On a une première enveloppe. Alors, je ne sais pas trop si c'est une assurance vie ou un troisième pilier suisse, parce que je vous le rappelle, en Suisse, il y a trois piliers. Donc, il y a le pilier par répartition. Et puis ensuite, on a deux piliers complémentaires, capitalisation obligatoire et capitalisation complémentaire, donc non obligatoire. Je pense que c'est plutôt un troisième pilier suisse qu'il vient donc abonder tous les ans. On a ensuite un plan d'épargne en action. Le plan d'épargne en action est réservé aux résidents fiscaux français. Donc, ça veut dire que notre ami du jour est probablement frontalier suisse. Donc, qu'il travaille en Suisse, mais qu'il réside en France. Donc, il est résident fiscal français. Et on a enfin un compte-titre. Et là, il va falloir qu'on aille à l'intérieur des enveloppes pour voir si on est vraiment optimisé ou pas. Donc là, sur cette première enveloppe, on voit qu'on a 105 000 euros avec une plus-value de plus 23%. Et au niveau des fonds, on va avoir un Amundi MSCI World, donc un ETF, et on va avoir trois fonds de chez Pictet. Donc les fonds de chez Pictet, on a un fonds Security, donc c'est les boîtes de la cybersécurité. On a un fonds Water, c'est les sociétés qui sont liées au domaine de l'eau. Et on a un fonds Nutrition, donc ça va être tout ce qu'on appelle les Consumer Staples, donc les distributeurs, si vous voulez, de biens de première nécessité, donc Nestlé, etc. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il a des plus-values donc, qui sont extrêmement intéressantes et que les fonds, malgré que ce ne soit pas des ETF, performent malgré tout. Donc là, je vais faire une petite digression pour vous rappeler que ces fonds-là ont effectivement des frais plus importants que sur les ETF, mais ça ne les empêche pas de faire de la performance malgré tout, parce que je vous rappelle que les performances affichées par les fonds sont nettes de tout frais. Donc, vous pouvez très bien avoir des fonds avec des frais de gestion extrêmement élevés à 3% par an, par exemple, mais qui surperforment leur indice de référence. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça parce que c'est ce qu'on va vous dire sur Internet, que les frais, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix, etc. C'est vrai, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut vraiment analyser la rentabilité nette de tout frais et vous pouvez très bien avoir des fonds qui font beaucoup plus de performance que des ETF avec des frais 10 fois plus élevés. Donc, dans ce cas-là, je vois que les fonds sont plutôt performants et sont même plus performants que l'ETF. Il est très probablement possible qu'il ait acheté l'ETF après avoir acheté les fonds. Mais en tout cas, il a des performances qui sont tout à fait raisonnables sur le fonds sécurité et sur le fonds water. Sur le fonds nutrition, on est sur une performance un petit peu plus modeste, mais c'est un secteur qui est beaucoup plus défensif, donc ça peut se comprendre. Néanmoins, on est sur une enveloppe qui est complètement dans le vert. Donc à ce niveau-là, on est plutôt sur un investissement qui est intéressant. Il faudrait voir aussi sur cette enveloppe en particulier, notamment si c'est un troisième pilier, on peut avoir des frais de gestion et des frais d'entrée qui sont importants, donc ce sera à analyser aussi. Alors ensuite, concernant le PEA, on est sur un investissement qui est tout à fait traditionnel avec une seule ligne sur le MSCI World. On en a longuement parlé lors des deux précédentes vidéos, mais moi, c'est une stratégie que je n'apprécie pas parce que vous êtes dépendant en fait à 100% du bon vouloir de l'allocation de l'indice. Vous ne pouvez pas avoir de granularité dans la pondération de l'indice et puis surtout, vous n'allez pas être exposé aux émergents asiatiques. Donc pour moi, il a deux possibilités ici. Soit il revend son MSCI World et il fait trois ETF, S&P 500, MSCI Europe et MSCI Emerging Asia, qui va venir pondérer suivant ses convictions. Soit il conserve le MSCI World, mais il faut absolument intégrer en complément le MSCI Emerging Asia pour avoir une vraie exposition mondiale.
Ok, top. Et on peut passer donc au dernier, à la dernière ligne donc de ces actions et fonds avec un compte-titre Trade Republic qui a été ouvert là aussi au vu des plus-values, peut-être pas si récemment. D'ailleurs, énorme plus-value sur Palantir par exemple, 76%, et on est à 7000 euros donc du côté de Trade Republic avec un plus 5%, ce qui veut dire aussi qu'il y a quand même eu des moins-values au vu justement des investissements qui ont bien performé. C'est étonnant d'ailleurs d'avoir que plus 5% total. Je ne sais pas comment on peut l'expliquer au vu justement des plus-values, mais pourquoi pas.
Si tu scrolles un petit peu, je vois qu'il a une position sur Novo Nordisk sur laquelle il s'est fait évidemment déchirer puisque Novo Nordisk a beaucoup perdu en valeur. Et ensuite, on est sur des petites sommes, donc on est sur une plus-value à la marge. Néanmoins, on voit que sur ce compte-titre, il y a quand même plusieurs erreurs. Première erreur grossière, c'est effectivement le Nasdaq et le S&P 500 qui sont déjà présents en fait dans les MSCI World qu'il a sur son PEA et sur son troisième pilier suisse. Donc ça, encore une fois, ce n'est pas du tout une bonne pratique, d'autant plus que les plus-values sur compte-titres sont taxées plein pot en tant que résident fiscal français. Donc là, il devrait se concentrer sur son troisième pilier suisse ou sur son PEA et absolument pas sur son compte-titre. Et un compte-titre, ça fait sens dans plusieurs cas. S'il fait du stock picking sur des actions de conviction, et donc c'est ce qu'il a fait, donc là on est OK là-dessus. Soit s'il va chercher des ETF qui sont très spécifiques et qu'on ne va pas trouver ailleurs, je vois qu'il a acheté par exemple Global Aerospace and Defense, qui lui n'est pas disponible sur PEA et probablement pas sur son troisième pilier suisse, donc là ça peut faire sens. Et ensuite, on a deux autres cas. C'est si vous voulez avoir des métaux précieux ou du Bitcoin pour la partie antifragile et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec la custody et la détention en direct. Et dernier cas, enfin, c'est si vous voulez accéder à des produits obligataires ou de private equity, notamment pour toucher du rendement auquel vous n'avez pas accès sur les autres enveloppes. Donc là-dessus, il y a un vrai travail déjà de nettoyage parce que le Nasdaq et le S&P 500 n'ont absolument rien à faire ici. Il faut qu'on les retrouve soit sur le PEA, soit sur le troisième pilier et plutôt sur le PEA que le troisième pilier d'ailleurs. Ensuite, le stock picking, bon pourquoi pas, il a plutôt bien réussi jusqu'à présent sauf Novo Nordisk. On est sur une sélection d'actions que je trouve plutôt raisonnable, donc pas de souci particulier là-dessus. La défense et l'aérospatiale, pourquoi pas aussi, parce qu'on est dans une période d'incertitude, mais attention, parce que ça peut aller très vite dans l'autre sens si jamais les tensions géopolitiques se calment. Et dernier point sur ce compte-titre, alors moi, Trade Republic, c'est un courtier que je ne recommande absolument pas, parce que le service client est catastrophique et parce qu'il y a énormément de frais cachés, notamment au niveau des spreads. Donc personnellement, c'est un courtier que j'éviterai et je me dirigerai plutôt vers des courtiers un petit peu plus historiques, comme Saxo Bank, comme XTB, comme De Giro par exemple, plutôt que Trade Republic qui, sur la partie frais, a une politique qui, moi, ne me plaît pas.
Ok, très clair. Et on passe à la suite donc avec le fonds euro avec donc 106 000 euros sur une assurance vie AXA Wealth Management. Donc, qu'est-ce que tu en penses, sachant que, bah, pareil, on ne va pas savoir exactement ce que contient cette assurance vie. Mais bon, aujourd'hui, pour un patrimoine de plus d'un million d'euros, avoir une dizaine de pourcents sur une assurance vie, ça semble pas non plus complètement déconnant, si ce n'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, aujourd'hui, le but, c'est de ne pas garder autant de cash et justement de placer cet argent quelque part.
Ouais, bah, comme tu l'as bien dit, en fait, il a déjà 300 000 euros de cash sur les comptes. Et donc là, il vient nous rajouter encore 100 000 euros de fonds euros sur une assurance vie, puisque le fonds euro, c'est équivalent à du cash. Donc là, en fait, on a beaucoup trop de cash dans ce patrimoine. Pour moi, c'est absolument pas cohérent avec ce qu'il recherche. Et les fonds euros, par contre, c'est des produits que je déconseille formellement à tous mes clients et sur lesquels je ne positionne pas mes clients parce qu'aujourd'hui, les fonds euros sont soumis à un risque politique et réglementaire qui est notamment la loi Sapin 2 qui peut venir geler les fonds euros dans les contrats d'assurance vie en cas d'instabilité économique en France, ce qui est en train d'arriver. Donc, si vous voulez pas vous retrouver avec votre argent bloqué, les fonds euros, je déconseille, d'autant plus que les fonds euros, je vous le rappelle encore une fois, sont constitués en très grande majorité de dettes souveraines françaises. Donc, à moins que vous ayez envie de financer la ruine de la France et le déficit français, je ne suis pas sûr que vous ayez envie d'avoir du fonds euro dans votre patrimoine. Donc, pour moi, ça, c'est à dégager de manière assez rapide pour tous les risques que je viens de citer et aussi parce que ce n'est absolument pas cohérent avec ce qu'ils recherchent. Pour moi, s'ils cherchent de la croissance à long terme, ils devraient se concentrer sur des actifs un petit peu plus risqué, donc les actions, la crypto, les métaux, etc. Et arrêter de tout me blinder en cash et en fonds euros parce que ça n'a pas de sens. Ils cherchent une croissance à horizon 10 ans, donc à un moment donné, il faut que le patrimoine soit aussi cohérent par rapport à cet objectif-là.
Très clair, et on passe à la ligne crypto, donc où aujourd'hui on a un compte Swissborg sur lequel réside 15 000 euros, dont une immense majorité en Bitcoin. On ne peut que te féliciter du coup d'avoir bétonné tout ça, et peut-être au vu justement de cette année 2025 qui a été assez difficile à naviguer parfois, on a 13 800 euros, donc voilà, c'est quasi l'intégralité du portefeuille. 1000 euros attendent en cash prêts à être déployés, et ensuite on a pas mal de petites lignes du côté donc des altcoins, mais on voit qu'on en a pas mal qui sont à zéro aujourd'hui, qui sont soldées les dernières, et les plus petites voilà sont entre 28, 100, 200 euros sur des Fetch AI, Render, Paxos Gold. Donc là aussi, fondamentalement, est-ce qu'il y a besoin de garder des lignes comme ça à 100 ou 200 balles? Elles ont des grosses moins-values, on est à du moins 50, moins 55, Ethereum on a moins 99, mais je suppose que du côté de Finari, en fait, c'est une ligne sur laquelle résidait plus de fonds que ça et qui a été soldée, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'elle affiche moins de 99. Pareil pour Compound, pareil pour Chili's, où on a à moins 100. Donc, est-ce qu'on n'a pas eu déjà, de la part de cet utilisateur, une curation qui a été faite? En tout cas, le portefeuille, là, en l'état, pour 15 000 euros, et au vu de l'incertitude de marché qui réside depuis ces derniers mois, ne me semble pas déconnant, en tout cas pour un crypto natif. Ce n'est pas un portefeuille qui me semble fou. Après, voilà, il y a quand même une marge de progression pour aller s'exposer peut-être un petit peu du côté de Ether et tout ça, mais j'ai la sensation que c'était chose faite et il y a eu très certainement un retour en arrière et peut-être une précaution à court terme qui s'est matérialisée par le retour du côté de Bitcoin.
Ouais, bah, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, ces petites lignes là, 200 euros, etc., pourraient être tout à fait nettoyées. Je pense que pareil pour les 1000 euros de liquidités qui dorment, ça, il faut les investir, il ne faut pas les laisser dormir comme ça. Et il pourrait très bien se contenter de n'avoir que du Bitcoin dans son portefeuille. Un petit point sur Paxos, moi j'aurais plutôt tendance à, pas vraiment à déconseiller, mais peut-être à diversifier si vous voulez de l'or. Vous pouvez faire un petit peu de Paxos, mais essayer de faire autre chose, soit des ce qu'on appelle des ETC sur l'or, donc parce que l'or est une commodities, donc c'est pour ça qu'on a le C dans ETC. Ou alors de l'or en direct, mais ne pas faire que de l'or tokenisé. Et ensuite, sur la détention, Swissborg, c'est une bonne plateforme qui est correctement régulée, qui a passé toutes les crises pour l'instant. Donc, pour moi, il n'y a pas de sujet là-dessus. Après, il pourrait pousser le truc et mettre en place sa propre custody via une ledger. Mais en l'état, voilà, il y a juste un peu de nettoyage à faire. Mais globalement, on est sur un portefeuille qui est cohérent. Par contre, on est sur une taille de portefeuille à 15 000 euros qui, là encore une fois, n'est pas cohérente par rapport à l'objectif de croissance à 10 ans recherché par l'analysé du jour. Il devrait, à mon humble avis, cette part devrait augmenter. Il pourrait monter sans problème à 10% du patrimoine total, sachant que son patrimoine brut est à 1 100 000 et qu'on a 300 000 de dettes. Le patrimoine net va être à 800 000 à peu près. Et donc, pour moi, il n'y a aucun point de blocage à ce qui monte la crypto à beaucoup plus que ça, 30 000, 50 000 euros, etc., jusqu'à 80 000 euros, ce qui ferait 10% du patrimoine.
Très clair et tout à fait aligné avec toi. Donc, on a aujourd'hui finalement un abonné qui a un patrimoine qui est plutôt pas si mal réparti, mais encore bien trop de cash dans des poches qui sont diverses et variées, comme on l'a vu au travers de cette analyse. Donc, un patrimoine qui, déjà bien assis, devrait se développer positivement au travers du temps. Quelques ajustements qui finalement sont très simples à mettre en place, qui devraient booster le fait d'avoir un meilleur rendement justement à un horizon de temps de 10 ans et plus, et probablement un patrimoine qui va continuer d'évoluer, que ça soit sur la partie immobilière, que ça soit sur la partie actions et fonds et crypto-monnaies, et qui devrait permettre d'avoir des objectifs à terme qui seront très honorables.
Ouais, tout à fait. Et là, je ferai quand même un point supplémentaire parce qu'on est sur des sommes qui sont importantes en cash. On est quasiment sur 300 000 euros de cash et investir ces 300 000 euros, ça peut faire peur à beaucoup de monde. Donc moi, ce que j'ai tendance à conseiller quand on est dans des situations comme ça et qu'on a beaucoup de cash à déployer sur les marchés financiers, c'est déjà de faire sa répartition globale, donc sur sa pyramide patrimoniale, de savoir exactement combien je mets sur les actions, combien je mets sur les obligations, l'immobilier, les cryptos, etc., etc. Et ensuite, en fonction des montants qui nous restent à mettre, notre abonné du jour pourrait très bien prendre la somme totale, la diviser en deux, investir une première moitié d'un coup, donc ce qu'on appelle un lump sum, et utiliser la seconde moitié pour faire un DCA, par exemple, sur 6 à 12 mois. Et donc ça lui permettra quelque chose de très simple, c'est d'être à l'aise psychologiquement avec ses investissements, parce que s'il investit tout d'un coup, et que le marché se pète la gueule, bon bah, il va commencer à transpirer, surtout sur 300 000 euros. Et s'il investit de manière un petit peu trop sage en DCA, bah, potentiellement, il va louper un coup d'opportunité si jamais les marchés continuent à monter. Donc pour moi, la bonne solution ici, c'est vraiment de découper en deux, d'investir la moitié en lump sum tout de suite et d'investir le reste en DCA sur 6 à 12 mois. Il ne faut pas que ce soit trop long non plus. Pourquoi c'est intéressant de faire comme ça? Parce que si jamais les marchés continuent d'augmenter, ben, il aura positionné la moitié de la somme et donc il va prendre de la performance sur la moitié de la somme, tout simplement. Et donc, il sera content de prendre cette performance-là. Et si les marchés se retournent, il sera content de pouvoir faire son DCA sur une période de 6 à 12 mois. Et donc, psychologiquement, ça le mettra, je pense, beaucoup plus à l'aise sur ses investissements. Et l'important aussi, c'est d'être à l'aise psychologiquement sur ce que vous faites. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise et que vous avez une secousse, bah potentiellement, vous allez faire des conneries et c'est là où vous prenez de mauvaises décisions. Donc, attention aussi à cette partie-là. Rien n'empêche aujourd'hui de faire une stratégie 50-50, comme je viens de vous l'expliquer, pour déployer un montant de cash qui est important.
Très clair, et je pense que ça fera un bon mot de la fin avec un patrimoine qui est déjà bien assis, puisque ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir plus d'un million d'euros de patrimoine et de biens immobiliers. C'est dommage qu'il ne nous ait pas précisé quel âge avait cet abonné, et c'est là où on va essayer de vous poser un petit peu plus de questions dans les prochains formulaires. N'oubliez pas d'aller remplir ce fameux formulaire pour participer à nos prochaines analyses de patrimoine, et dès la semaine prochaine, en plus, on aura le retour de Marc pour le trio endiablé et en espérant pouvoir vous apporter comme ça d'un épisode sur l'autre un petit peu plus de profondeur et surtout de clés que vous aurez en main pour vous en sortir justement petit à petit et développer positivement votre patrimoine au long terme, puisque dans la crypto on a tendance à avoir le nez dans le guidon et à regarder les graphiques d'un jour sur l'autre, mais quand il s'agit de l'échéance de toute une vie, le patrimoine c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît et c'est des petits choix aujourd'hui qui feront les grandes vagues de demain. Donc, c'est très important de le prendre le plus tôt possible pour réaliser des choix qui auront leur importance dans 10 ans, voire 20 ans. Merci Valentin pour cette analyse. C'était très cool et c'est un patrimoine qui était très agréable à analyser. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine et vous pouvez retrouver Valentin Chaponnet du côté des réseaux sociaux et sur YouTube, mais également sur sa plateforme de conseiller en investissement, Wellsim. Très bonne journée et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Merci à tous, à bientôt.